On en parle. Yves Alain Cornu. Le guichet.
9h06 sur la première, nous ouvrons donc notre guichet pour cette deuxième partie dont on parle. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de l'émission. La question du jour qu'on entendait tout à l'heure, Mathieu Truffert, comment conserver ces photos, ces vidéos, comment faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, nos lointains descendants même puissent un jour voir les photos que nous prenons aujourd'hui avec des appareils totalement numériques, le plus souvent qui restent simplement sur notre smartphone. On va poser la question à notre public, bien sûr, jusqu'à 10h. Mais d'abord, Mathieu Truffert, nous prenons un petit peu d'altitude.
À 3300 mètres exactement au Montfort, entre Verbier et Ninda. Alors le panorama est fabuleux. Il y a le Grand Combin, le Mont Gelé, le glacier du Grand Désert et un peu plus loin, le Mont Blanc et même le Cervin. Les touristes viennent de Suisse et du monde entier pour voir cette vue exceptionnelle. La plupart du temps, ils sont évidemment équipés d'un appareil de photo ou d'un smartphone. Bonjour monsieur, vous avez fait des photos aujourd'hui ?
Oui, quelques photos, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez pris en photo ?
Ben, les montagnes, la neige, les lacs qu'on voit par ici à travers, chez nous.
C'est des photos précieuses pour vous, celles que vous avez prises aujourd'hui ?
Ben oui, quand même.
Vous les gardez sur quel support ? Vous les gardez où ces photos ?
Ben moi je suis pas fort à l'ordinateur, alors je les garde sur le Natel.
Est-ce que vous pensez que vos enfants, vos petits-enfants, votre famille verront vos photos dans 10, 20 ou 50 ans?
Bien sûr, oui. Parce que les plus importantes, je les garde quand même.
Vous les gardez comment?
Sur le Natel, toujours.
Et vous pensez que ça va durer 50 ans, les photos que vous avez sur votre Natel?
Je sais pas. J'espère. J'espère.
J'ai pris en photo mes filles, photo souvenir, donc en haut du Montfort.
C'est une photo précieuse pour vous?
Précieuse, je sais pas, mais ce serait un excellent souvenir. Elles sont encore petites, c'était 10 ans, donc je pense que j'aurai du plaisir à les revoir dans quelques années.
Comment est-ce que vous allez sauvegarder cette photo?
Alors, je suis pas un spécialiste en informatique, mais j'ai des sauvegardes iCloud et compagnie. Et j'espère que ça tiendra très longtemps pour qu'on puisse conserver nos clichés le plus longtemps possible.
Ça vous inspire confiance, vos photos les plus précieuses sur un cloud, sur un serveur?
C'est un peu trop tôt pour le dire. Alors après, on faut quand même vivre avec son temps. Avant, on les prenait, on les développait. Le développement, on voit, ça vieillissait pas très bien non plus. Hein. Le numérique a donc apporté une certaine qualité sur le long terme. Je pense que c'est important, peut-être même de les sauvegarder à plusieurs endroits. Ce serait plus des disques durs externes ou autres. Ce serait aussi pas mal de le faire comme ça.
Bonjour. Est-ce que vous faites beaucoup de photos?
Alors, moi, je fais pas mal de photos avec un réflexe, surtout en vacances, pas dans la vie de tous les jours. Voilà.
Qu'est-ce que vous faites de ces photos une fois qu'elles sont prises? Vous les triez, vous les partagez, vous les sauvegardez? Qu'est-ce qui leur arrive?
Globalement, elles finissent sur un disque dur.
Est-ce que vous réfléchissez à ce que ces photos vont devenir dans 10, 20, 50 ans quand vous les sauvegardez?
Je me suis déjà posé la question, ouais. Ça m'a déjà effleuré l'esprit de me dire, si je perds mon disque dur, elles sont plus là, en fait. Elles n'existent plus, quoi.
Donc vous avez conscience que vous pourriez tout perdre?
Oui. Moi, j'ai conscience, ouais. Surtout que des fois, j'ai tendance à perdre les choses. Donc perdre un disque dur dans une maison, ça se perd, quoi. Ça se perd facilement, finalement. Puis, on peut se le faire voler en vacances, ou le perdre, ou juste il est plus lisible, et puis on n'a plus.
Quelques touristes que vous êtes allés angoisser, Mathieu Truffert, ce week-end en Valais, au sommet du Montfort. Alors on comprend bien qu'à l'heure du numérique, prendre une photo, une vidéo est devenu facile et quasiment gratuit, mais conserver ces images, c'est une autre histoire.
Oui, Valin, comment à l'heure du numérique, stocker, organiser, archiver les images de nos moments les plus précieux? Comment s'assurer qu'un jour, dans 10, 20, 50 ans, nos descendants puissent voir ces images et puis aussi les retrouver, ces milliers de photos et de vidéos que nous prenons aujourd'hui? Et puis encore, que faire avec les dias, les photos papier, les films Super 8 que nous héritons parfois des parents et des grands-parents? Est-ce qu'il faut les garder en l'état ou alors les numériser pour les stocker cette fois sur un serveur? Et puis, à qui s'adresser pour obtenir des conseils et de l'aide? Et combien tout cela va-t-il coûter?
Des questions. questions que vous pouvez nous poser dès maintenant, chères auditrices et auditeurs, au 0800 108 208, le numéro gratuit du standard de notre guichet quotidien, émission interactive pour qu'on vous entende dans l'émission. Vous pouvez aussi laisser un message vocal depuis votre téléphone mobile au 076 206 12 12, que ce soit par WhatsApp, Tréma, Signal ou Telegram, ou si vous ne voulez pas parler à l'antenne, nous écrire un email à onenparle@rts.ch. Et puis deux spécialistes seront avec nous toute cette heure pour répondre à vos questions. Une spécialiste de la photo, une spécialiste de l'archivage. On est au grand complet avec ces deux invités que j'accueille maintenant. Bonjour Heidi Estopet.
Et bonjour.
Vous êtes conseillère au magasin Photovision à Lausanne. Alors toutes ces questions, on imagine que c'est votre quotidien. Bonjour à vous aussi, Basma Maklouf-Chabou.
Bonjour.
Vous êtes vous professeur responsable des cours d'archivistique de la filière sciences de l'information à la HEG Genève. Vous enseignez l'archivage des photos et vidéos chaque année à plusieurs dizaines d'étudiants. Alors à toutes les deux, déjà peut-être une réaction à tout ce qu'on a entendu là de ces joyeux vacanciers qui remplissent leur téléphone de photos au sommet d'une montagne et qui se demandent un peu, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elles vont devenir et comment on va faire pour les retrouver? Peut-être Basma Maklouf-Chabou, on sait prendre des photos maintenant, tout le monde, mais quoi en faire? C'est notre histoire.
Alors effectivement, donc on a donc cette pratique et tout le monde sait faire en plus. Donc on a les dispositifs pour le faire, plein d'appareils dans une seule maison. Donc dans une seule famille, on peut utiliser beaucoup d'appareils pour illustrer un événement familial. Donc la même photo peut être prise plusieurs fois par 3-4 membres de la famille. Et de ce fait, on a le problème de la volumétrie. On a beaucoup d'informations et pratiquement la même photo qui se répète plusieurs fois. Donc il y a pas mal de choses à se rappeler déjà. Et puis justement, il y a quelques conseils pratiques qu'on pourrait donner à nos auditrices et auditeurs.
Yvalin a utilisé le mot de peur il y a un instant. Est-ce qu'il y a un risque réel que nos enfants, nos petits-enfants, ne voient pas les photos que nous prenons aujourd'hui, Basma Maklouf-Chabou?
Alors justement, il faut faire une petite démarche qui n'est pas difficile.
Il faut travailler un peu.
Justement, bah voilà, c'est ce qu'on conseille. D'abord, s'assurer que nous avons bel et bien toute la quantité de photos chez nous, parce qu'on a parlé de cloud, on a parlé de support et de stockage externe. Donc ça, c'est une solution facile effectivement. Et par contre, il faut avoir vraiment ce processus qui consiste à d'abord s'approprier puis s'assurer qu'on a le contrôle sur nos photos. Donc faire sa petite cartographie de toute la production de photos qu'on a entre tablette, téléphone portable, disque dur, il faut savoir où c'est placé déjà. Donc faire sa carte ou cartographie, on va dire, de toute la production qu'on a de photos.
On comprend qu'il s'agit donc d'abord de s'organiser. Heidi Estopet, juste une rapide réaction aussi à ce mot de peur. Vous êtes dans un magasin tous les jours, vous voyez arriver des clients. Vous m'avez dit au téléphone,
oui.
Les gens ont peur.
C'est un discours que j'entends régulièrement, de tout âge, souvent des personnes âgées qui ne savent pas si leurs enfants pourront profiter de leurs photos, voire même qu'un autre discours qui concerne peut-être pas le stockage, mais tout simplement de qu'est-ce que va devenir toutes ces photos aussi. C'est-à-dire que certains ont 5000 photos parce qu'ils ont fait que du négatif, d'autres ont fait du numérique et se retrouvent avec 30, 40 000, 50 000 photos. Et je pense que il y a des questions qui se posent. Donc c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement.
Ça paraît vertigineux, ces milliers de photos. Avant, on avait l'album de la famille chez la grand-mère et tout le monde disait « Ah oui, la photo de la page truc, tu te souviens ?» Maintenant, c'est l'inverse exact. 0800 108 208, partagez avec nous votre façon de bien faire ou de ne pas savoir quoi faire justement avec toutes ces photos. 0800 108 208, c'est le numéro de notre guichet interactif. Vous pouvez aussi laisser un message vocal au 076 206 12 12 ou nous écrire un email à onenparle@rts.ch. On écoute un titre de circonstance choisi par notre programmateur musical Jean-Baptiste Roumain. C'est Pixel à l'ère des photos numériques. C'est Alios qui nous chante ceci et on écoute vos questions juste après.
539 photos sur votre smartphone.
Oui, exactement. Depuis plusieurs années.
Elles sont classées.
Oui, par année, ouais.
C'est un trésor, 77 000 photos. Vous avez peur qu'elles disparaissent ?
Oui, oui, oui.
Comment est-ce que vous les sauvegardez, ces photos ?
Sur le cloud ou sur mon ordi et puis dans mon téléphone.
Votre mari fait non avec le doigt. Vous, vous êtes un peu inquiet de perdre vos photos les plus précieuses.
Exact, voilà, ouais. Ça va tellement vite la technologie que dans 10 ans, même dans 5 ans, il n'y aura plus la carte. Ça ne sera pas que ça sera comme carte.
La technologie
va trop vite, la technologie. C'est ça le problème.
Et c'est ça le problème, et d'avoir 77 000 photos aussi peut-être à trier. On va en parler durant cette heure d'émission avec nos deux invités spécialistes en photo, Heidi Estopet et puis Basma Maklouf-Chabou, pardon, qui est responsable de la coordination des cours archivistiques à la filière sciences de l'information à la HEG Genève. Et puis c'est un guichet interactif donc, et on attend également vos appels.
0800 108 208.
Et au 0800 108 208, nous avons Catherine en ligne Deschandons. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
Votre question ?
Alors ma question c'est, nous avons fait beaucoup de voyages, entre autres en Extrême-Orient, et nous avons beaucoup de dias. Et ma question est savoir comment est-ce que je fais, parce que les dias, suivant les marques et suivant la façon dont ils ont été faits ont tendance à se détériorer. Et c'est des dias qui nous sont précieux. Et comment faire pour les transposer en format JPG, par exemple ?
Merci pour cette question que sans doute beaucoup de personnes vont se poser à votre écoute, Catherine. Je me retourne vers vous, Heidi Estopet, spécialiste en photographie, conseillère dans votre magasin. On vient parfois avec des diapositives en disant qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle se garde. Alors en JPG, donc ce format numérique, et puis ça c'est une chose de la convertir, puis après on va aussi vous demander sur quel support on les garde. Qu'est-ce qu'on fait avec ces dias ?
Alors, tous les jours, on a des demandes pour scanner des diapositives. Alors, une des premières possibilités, ça va déjà dépendre de la quantité, c'est-à-dire qu'on peut en faire certains directement sur place. On va pouvoir soit les envoyer par email, les mettre sur une clé USB, sur un CD. Et puis, on a aussi un autre système avec, nous travaillons avec une société donc, qui va scanner, mais en grande quantité. C'est-à-dire, si vous avez 2000 dias, nous allons pouvoir les scanner en format... Alors, JPEG, oui, c'est mieux. Et ensuite, de la même manière, les scanner, les mémoriser sur un disque dur ou sur une clé USB.
Et ça, donc on a compris, on peut aller dans un magasin de photos. S'il y en a quelques-unes, en général, vous le faites tout de suite ou en tout cas, oui. Vous le faites vous. Sinon, vous envoyez... vous avez dit, on peut les envoyer par mail au client ou les mettre sur une clé USB ou un autre support. Vous conseillez un support en particulier? Parce que les recevoir par mail, ça veut dire qu'après, ben, ils sont de nouveau prêts à se perdre ailleurs.
Alors, ben justement, ça va dépendre de la personne, du client, de la demande du client. Est-ce qu'il sera apte à utiliser une clé ou plutôt est-ce que lui préférera un disque dur? C'est en fait avec lui qu'on va le discuter. Et bien souvent, il s'est déjà un petit peu renseigné avant et il vient avec sa demande. Mais on est là pour renseigner.
Deux petites questions dans le prolongement de la question de Catherine. Combien ça coûte de numériser une dia ?
Alors, il y a la version simple où on est, quand on a peu de dias, je crois que ça revient environ à 2 francs pièce. Après, il y a un autre système, attendez, je cherche mes prix, où justement vous aurez la possibilité de scanner. Ben, dernièrement, on a eu, je crois, jusqu'à 2000 dias. Et là, on compte environ entre... Il y a un prix dégressif, mais à partir de 60 centimes l'image.
Donc, c'est quand même un certain budget.
Oui.
Autre chose, ces dias, une fois qu'elles sont numérisées, faut-il les jeter ? Faut-il les garder ?
Eh bien, c'est une bonne question. Je sais qu'il y a des gens qui jettent. Ils jettent tout. Moi, je les garderai. Je garderai parce que
pourquoi
ça reste un support supplémentaire on ne sait jamais.
On va demander son avis à Basma Maklouf-Chabou sur cette question, puisque vous êtes professeur en archivistique, dont les sciences de l'information, donc la numérisation, voilà, on a ces dias, on les a faites numériser sur un support. Vous conseillez aussi de garder les supports d'origine, et qu'est-ce qu'on fait, surtout de la partie numérique? Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il faut déjà recenser tout ce qu'on a sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur peut-être la tablette du beau-fils, enfin voilà, tout ce qui existe. Après, une fois qu'on les a réunis, on fait quoi? On les met sur quoi et on peut dormir tranquille?
Alors, pas tout à fait. Le processus, il va prendre quelques petites étapes en plus de l'identification des photos. On va essayer également de les réunir et les organiser selon quelques critères. Et puis, on a l'avantage avec le numérique, c'est que, comme vous le savez, donc les photos sont, de manière générale, prises par des appareils modernes qui contiennent, en général, un récepteur GPS. Et ceci est très, très précieux. Donc, ça va nous aider à décrire nos photos. Décrire veut dire, par exemple, ajouter la localisation. Où est-ce que ça a été prise? Enfin, la photo a été prise à quelle date, à quelle période, à quel endroit? Donc, on a parlé des prises de photos lors des voyages et des déplacements, typiquement. Donc, durant les voyages, on aimerait avoir des souvenirs. Et ça, c'est une information très précieuse. Donc, à l'organisation de nos photos, on peut éventuellement les organiser par pays, par endroit, par date et par événement.
On les renomme chacune, ou on peut par exemple faire un dossier vacances ici, et puis elles s'appellent toutes image 1200, image 1300, ou est-ce qu'on les nomme toutes une à une?
Alors, c'est ça l'avantage justement avec le numérique, c'est que ces métadonnées viennent systématiquement avec l'image. Si vous cliquez, faites un clic droit sur l'image, il y a quelques informations qui vont apparaître, typiquement la date, trait et l'heure de prise de la photo et l'endroit. Donc typiquement, on peut faire un tri facile pour voir qu'est-ce qu'on a eu comme photo en 2002, par exemple, ou 2010 ou autre. Et ça, typiquement, quelque chose qui pourrait organiser les photos. Donc, on capte les métadonnées des photos et on organise thématiquement ou bien selon ce qu'on veut ces photos. Alors, la chose ne s'arrête pas là. On va pas dormir tout de suite après ça. On devrait également s'assurer du stockage. Comme j'ai dit, donc, il faut avoir les documents, enfin, les photos chez nous, sous notre contrôle, sur un disque. Et les budgets sont très variables. Évidemment, il faut choisir et savoir quel budget et quelle technologie. Alors, quelle que soit la technologie, il va falloir la changer. Le transfert des données et des photos régulièrement au bout de 3-4 ans, c'est une étape nécessaire. On peut pas échapper de cette étape. Donc on peut prévoir régulièrement ce transfert selon le budget.
C'est-à-dire que les photos, on veille dessus année par année. Contrairement à ce qu'on pense parfois, on fait pas le travail, puis on est bon. C'est un travail quasiment permanent.
Justement. Alors, comme on a la facilité de la description, donc on va pas introduire sur chaque photo ces informations. Alors, on va dire un peu plus de 60% du travail est fait. Donc, on va juste faire ce transfert sur d'autres supports, toujours en local, et éviter de, au max, de laisser les photos sur le web. Certaines photos avec des métadonnées avancées peuvent contenir, donc en plus des métadonnées que je viens de citer, aussi les IP, les identifications des appareils de prise de photos.
Donc, quand vous dites en local, pardon de vous interrompre, ça veut dire sur un disque dur chez soi
ou... Exact, voilà. Exactement. Donc éviter les abonnements, les solutions donc payantes, des choses qui nécessitent quand même un budget et puis des coûts récurrents, donc ce qui n'est pas forcément une bonne solution.
Si on garde sur son ordinateur, c'est donc en local, on fait aussi une copie sur, comme disait ID stoppé aussi, sur une clé USB par exemple, ou est-ce que si c'est sur son ordi, c'est bon?
Alors, justement, après le stockage et la centralisation chez nous, il va falloir aussi penser à la sécurité. En cas de problème, on n'aura pas forcément et uniquement une copie. Surtout si on compte faire des techniques de compression, on veut appliquer des opérations sur les données, il faut pas risquer, il faut pas juste faire tout ce qu'on veut sur la copie qu'on possède, la seule copie qu'on a sous la main.
Merci pour toutes ces explications. On y reviendra bien sûr encore au gré des questions du public au 0800 108 208. On reçoit aussi des messages vocaux au 076 206 12 12. On va écouter celui de Michel.
Oui, bonjour Michel. Moi, je stocke toutes mes photos sur Google Photos. C'est hyper pratique. Les copies de sécurité sont faites par Google. Et puis, il y a des albums qui sont générés automatiquement, qui montrent l'évolution de mon fils de l'âge de 6 mois à 18 ans et tout. Ce qui me pose plus problème, c'est en cas de faillite de Google. C'est vrai que c'est peu probable, mais si ça arrive, quels sont mes droits? Est-ce que je puis exiger à un prix raisonnable de récupérer toutes mes photos? Je sais qu'en Angleterre, il y a une quinzaine d'années, il y avait un service de stockage qui avait fait faillite et les repreneurs ont demandé des sommes astronomiques pour que les clients puissent récupérer leurs données. Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième question, lorsque je serai plus là, à qui appartiendra appartiendront ces photos sur le cloud, sur Google Photos, à mes enfants, et voilà, je ne sais pas s'il y a une législation par rapport à ça. Merci.
Ben merci beaucoup à vous, Michel, au 076 206 12 12, donc pour votre message. Deux questions en une, Basma Maclouf Chabou. D'abord, ben vous le disiez, hein, garder en local, c'est plus sûr que de mettre sur des serveurs qui soient gratuits ou payants, c'est peut-être même pas la question, mais là sur Google. Et donc, qu'est-ce qui se passe si le service se ferme? C'est la première question. Et ensuite, à qui appartiennent ces photos une fois qu'on disparaît?
Bah justement, donc c'est ce qu'on disait. Donc il faut éviter toute externalisation au niveau du stockage. Alors la raison, c'est pas uniquement le coût, hein, parce que déjà vous avez bien noté que certains peut-être à expérimenter la chose, le stockage sur Google, donc ça va vite. Donc c'est pas la capacité de stockage n'est pas illimitée et on reçoit de temps en temps donc l'appel à faire un upgrade et puis ajouter des sous pour s'abonner et pour avoir un peu plus de stockage. Ça va être une demande assez récurrente aussi. Et c'est pour ça qu'il faut éviter qu'on passe à ces solutions et puis ça crée une dépendance finalement à un service qui n'est pas sous notre contrôle. Il faut pas oublier que l'image quand même concerne des personnes. Et donc comme il a bien dit notre auditeur Michel a bien précisé que c'est sympa de recevoir des compositions et des albums. Alors, on n'a pas forcément envie d'avoir des compositions comme ça proposées. Et c'est sur le web, donc c'est vraiment pas de contrôle sur un espace ouvert.
Pardon, je reviens juste à la question de Michel. À qui, si l'entreprise fait faillite, qu'est-ce qui se passe en quelques mots? Et puis à qui appartiennent les photos plus tard?
Alors, on ne sait pas, justement, c'est l'inconnu. Et dès qu'on n'a pas cette information, on n'a pas le contrôle, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être le pilote de ce contenu. Et on est le propriétaire. Et si on est sur le web et on continue à publier et partager de manière très, massive, parce que c'est un peu ce qui se passe, hein, avec les réseaux sociaux, etc., eh ben, on n'a pas le contrôle. On n'est pas forcément les propriétaires des photos.
0800 108 208, continuez d'appeler notre standard pour passer à l'antenne avec vos questions sur l'archivage de toutes ces photos qu'on a, des anciennes qu'on numérise ou des nouvelles qu'on a sur nos appareils. On écoute un peu de musique et on continue de répondre à toutes vos questions au 0800 108 208 juste après.
C'est des photos aujourd'hui?
Oui, beaucoup du panorama alpin ici sur le Montfort.
C'est des photos qui seront précieuse pour vous?
Je pense actuellement, maintenant à l'instant, je pense oui. En tout cas, mon projet, c'est une fois que je serai à la retraite, de faire un joli classement des albums.
Donc pour les mettre en sécurité, vous allez les imprimer?
Exactement. Oui, c'est ça.
Ah oui, c'est une piste qu'on n'avait pas encore évoquée, Mathieu.
Mais dont il faut parler. Heidi Estopé, vous qui travaillez dans un magasin de photos, c'est fou, à l'âge du numérique, on nous parle d'imprimer pour sécuriser.
Alors, c'est à mon avis la première chose à faire. Ça permet déjà de pouvoir se regarder ses photos tous les jours. Si on imprime une image, on va l'afficher, on va pouvoir en faire des albums et ça permet de trier aussi, c'est-à-dire de faire une sélection, de choisir la meilleure photo et puis d'avoir quelque chose de physique aussi, quelque chose qu'on peut avoir
en pied-bas. Donc ça a du sens.
Ça a beaucoup de sens.
Au 0800 108 208, nous avons une auditrice ou un auditeur par téléphone dont je n'ai pas le prénom, mais on vous écoute tout de suite. Bonjour.
Allô. Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Je m'appelle Danielle. En fait, j'ai une question concernant la conservation de mes photos. J'en ai beaucoup sur CD. Et maintenant, je vois que certains ordinateurs n'ont même plus d'endroit pour mettre les CD. J'en ai une cinquantaine et je me demande si qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces photos et qu'est-ce qui m'est conseillé de faire pour pas les perdre.
Merci beaucoup, Daniel, pour cette question. On va l'adresser à Basma Maclouf Chabou, spécialiste d'archivistique et numérique en particulier. D'avoir ces photos sur CD, est-ce que c'est pérenne? Est-ce qu'il faut de temps en temps refaire une copie des CD? Qu'est-ce que vous conseillez?
Pareil. Donc, il faut juste se rappeler que le CD ou autre support numérique a le problème de la vulnérabilité. Donc, c'est pas durable du tout.
C'est parce que les lecteurs peut-être n'existeront plus ou c'est parce que vraiment les CD s'effacent?
Même le matériel est fragile et donc le plus simple c'est de transférer donc périodiquement ces contenus sur un disque. Et le disque, il va être aussi migré vers chaque fois, chaque 4 ans plus ou moins, sur un autre support.
Ça dure combien de temps un CD d'ordinaire?
Alors honnêtement, les statistiques scientifiquement disent qu'on ne peut pas aller au-delà de 5 ans. Donc avec une lisibilité garantie. Il faut pas aller jusqu'à 5 ans à mon avis. Donc pour être prudent, au bout de 4 ans, il faut prévoir son budget pour ça.
Est-ce qu'un CD qui n'est pas lisible à la maison, on peut récupérer ses données ou c'est fini?
Alors, il y a deux types d'erreurs sur les au niveau lecture. Il y a ce qu'on appelle les erreurs mineures et les erreurs majeures. S'il s'agit d'une petite erreur de lecture, donc interruption de la chaîne binaire, on peut les réparer avec des correcteurs. Mais plusieurs erreurs mineures impliquent une perte de données. Donc, il faut pas compter toujours sur les technologies de correction sur ces supports. Donc, il faut absolument prévoir le transfert des données.
Peut-être le dernier conseil à notre auditrice. Est-ce qu'il faut rester sur le support CD et passer d'un CD à l'autre ou est-ce que c'est le moment de changer et puis d'amener ça sur un disque dur ou sur une autre solution?
Je dirais sur un disque. C'est le
plus
simple.
Sur un disque dur.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir répondu à Daniel au 0800 108 208. Continuez de composer ce numéro si vous aussi avez des questions sur cet archivage. On a reçu aussi des questions par écrit, Mathieu.
Oui, on en reçoit plusieurs. Jean-Pierre Abussidny qui nous dit « Avec l'évolution et le progrès technologique, je trouve que c'est dangereux de prévoir ce qui sera conservable ou non et de nous faire croire que l'on pourra garder nos documents pendant un siècle, ce qui crée des nouveaux langages numériques ne peuvent pas s'assurer qu'ils pourront encore être utilisables dans 10 ou 20 ans. » Basma Maclouf Chabou, réponse à Jean-Pierre. L'évolution technologique, elle ne réfléchit pas assez à l'archivage?
Alors, c'est ça le problème. Hein, le problème du numérique, c'est qu'il ne va pas très loin, comme le papier.
Ouais.
Le papier a fait ses preuves, donc on sait très bien que c'est lisible donc après des siècles. En faisant ce qu'il faut et en réunissant les conditions nécessaires pour la bonne conservation. Le numérique, il vient avec beaucoup d'avantages et son point faible, c'est la pérennisation. La conservation à long terme est la problématique la plus abordée, la plus discutée dans notre domaine. Et il y a évidemment des approches, il y a des normes, il y a des procédés de migration très, très développés, ce qu'on appelle la norme OIS, par exemple, qui exige beaucoup, un procédé de migration très exigeant, mais ça passe toujours par le transfert de contenu, c'est-à-dire la migration à la fin. Il n'y a pas d'invention jusque-là.
Si on en revient au papier, justement, Heidi Estopé, vous qui êtes conseillère en magasin de photos, on n'a pas parlé des différents types de tirage, parce que d'abord, on envoyait la pellicule ou le fichier numérique dans une société qui nous envoyait des photos papier glacé, dont on connaît la conservation, même si on l'affiche dans un cadre. Il y a aussi des personnes qui impriment à la maison, avec leur imprimante, des photos sur du papier aussi, des fois de très bonne qualité. Est-ce que vous avez un recul maintenant sur la différence de conservation des couleurs, par exemple, si on imprime à la maison ou si on envoie encore à une société qui nous renvoie par la poste les photos?
Alors, aujourd'hui, on a quand même une qualité des imprimantes qu'on trouve sur le marché qui sont vraiment très, très bonnes et qui permettront de conserver ces photos. Après, il y a des possibilités aussi de vernissage sur les images histoire de les garder plus longtemps. On peut même les coller sur des supports. On peut de cette manière-là les garder plus longtemps.
Merci pour cette réponse. On va écouter encore un titre de musique et continue de partager nos conseils, vos conseils surtout à vous deux, Heidi Estopé et Basma Maclouf Chabou, à nos auditrices et auditeurs qui font le 0800 108 208 pour adresser leurs questions. À tout de suite.
Ce qu'on fait chaque année, c'est qu'on se fait un calendrier avec plein de photos, justement de ce qui s'est passé l'année précédente. Puis on le partage avec un petit peu, on en a pour la famille et pour la famille étendue.
Vous imprimez ce calendrier ?
Oui, exactement.
Le reste, vous pensez que vous allez le garder ou vous risquez de tout perdre ?
Je m'assure que c'est sur un disque dur, qu'on conserve ces photos pour les voir un petit peu plus tard. Puis c'est vrai que ce qui est très bien, on a 3 filles, et puis on se fait quelquefois des soirées comme ça, on regarde un petit peu les photos du passé.
Les disques durs, c'est quand même assez fragile.
Oui, alors j'en ai 2 qui sont conservés dans un endroit qui est, tempéré pour s'assurer. Et je vérifie tous les 2 ans que les photos restent bien dessus. Plus, elles sont conservées sur mon ordinateur que j'utilise tous les jours.
Interview réalisée au Montfort dimanche. Quelqu'un d'assez prudent, au fond, Heidi Estopé, quelqu'un qui archive ses photos sur 2 disques durs. Question toute simple, vous vendez des disques durs dans votre magasin. Comment est-ce qu'on choisit son disque dur ?
Alors, son disque dur, on va le choisir par rapport souvent à la capacité. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs gigas, voire terras, selon la quantité de photos. Et puis, il y a aussi une question de rapidité. Donc, de rapidité d'enregistrement et de lecture. Et là, en général, à mon avis, ce que l'on retrouve le plus sur le marché, c'est les disques durs SSD, qui sont des disques durs qui seront plus rapides.
Budget à peu près pour ces disques durs ?
Ah.
De combien ?
Je pense que c'est à partir de 100 francs, 150 francs pour une entrée de gamme.
Basma Maclouf Chabou, sur cette question du disque dur, on a entendu quelqu'un d'assez organisé, 2 disques durs séparés, plus des photos sur un laptop, c'est bien ?
Oui, c'est une excellente idée, sauf juste qu'il faut se rappeler qu'il faut peut-être les localiser dans 2 endroits différents. Mmh. Donc en cas de problème, on perd pas les 2.
On a entendu effectivement un témoignage de quelqu'un qui avait perdu des données puisqu'on son disque dur avait pris l'eau. Donc 2 disques durs, c'est bien, peut-être même dans 2 maisons.
2 sites différents.
2 sites différents.
Mais comment est-ce qu'on fait si on a sur son ordinateur bien suivi vos conseils, on a des dossiers avec les différentes vacances, par thème, on va dire, de photos. On fait une copie sur des disques durs externes dans des sites différents. Tout d'un coup, on reçoit des nouvelles photos de quelqu'un qui était en vacances avec nous. On se dit « Ah, je vais les ajouter dans mon dossier des photos de cette semaine de vacances. » C'est sur mon ordi dans ce dossier, c'est pas sur les copies des autres disques durs. Il faut toujours un petit peu se dire « Ah, si je rajoute une photo là, faut que j'aille la rajouter partout. » Ou bien est-ce que de temps en temps, on efface un disque dur puis on remet tout de 0 ce qu'il y a sur l'ordinateur ?
Alors, ça cause pas de problème puisqu'on va planifier un transfert de données. Et puis, le transfert se fait sur la version la plus complète, la plus à jour. Donc, pas besoin d'aller ajouter les photos ajoutées ou récentes dans les anciennes copies. Le plus simple, c'est juste de transférer le document ou la nouvelle photo dans la dernière version.
Question de Michel, reçue par mail. Il nous a bien écouté, visiblement. Il aimerait rapatrier ses images d'un cloud sur un disque dur. Il demande concrètement, comment est-ce qu'on fait ?
Il faut juste télécharger ces documents et puis les mettre ailleurs. Donc en prévoyant le stockage nécessaire. Il faut voir un peu la volumétrie de ce stock de photos et puis faire et complètement télécharger les photos en question.
D'autres questions, Mathieu, qu'on a reçues. On attend vos appels toujours au 0800 108 208. Encore quelques minutes pour adresser vos questions à Heidi Estopé, Basma Maklouf, Chabou. D'autres questions par écrit, Mathieu.
D'autres questions. Que faire? C'est Gérard qui nous écrit avec une clé USB. Est-ce que la clé USB est un support pérenne? Peut-être Heidi Estopé.
Alors, j'imagine que non. Enfin, c'est-à-dire que c'est le même problème. C'est-à-dire si on n'a qu'une clé USB, il vaudrait mieux l'avoir aussi sur un disque dur, avoir plusieurs lieux de stockage.
Combien de temps ça peut durer une clé USB, peut-être, Basma Maklouf, Chabou?
C'est justement la chose qu'il faut éviter. On dit que les clés USB, c'est juste fait pour transférer ou transporter les données. Donc, de manière ponctuelle. C'est pas fait pour pérenniser les données. C'est pas un stockage pérenne.
On a compris, à vous écouter toutes les deux, qu'un certain travail d'organisation était nécessaire. Alors, évidemment, quand on a classé ces photos comme vous avez recommandé de le faire, c'est une information qu'on détient. Est-ce qu'il faut parler de son système de classement autour de nous? Est-ce qu'il faut finalement former des successeurs, Basma Maklouf, Chabou?
Alors évidemment, la photo, elle est là pour aussi donc documenter un moment important de la famille, des événements importants, des naissances, des mariages, etc. Et puis, c'est typiquement une information qu'il faut partager et là, la photo, elle est là pour valoriser justement ces moments importants, souvent liés à des émotions, donc avec les membres de la famille, c'est important. Et de ce fait, alors partager comment on a classé, peut-être informer autour de nous où c'est classé, où se trouvent nos photos pour pouvoir les passer. C'est un héritage important. C'est une information qui concerne l'histoire d'une famille. Alors voilà.
On a plusieurs personnes qui nous écrivent pour nous dire qu'elles privilégient encore les bonnes vieilles photos papier, les albums. On a aussi une question pour les photos numériques sur les formats. On a dit que le JPG était le standard privilégié. Et quelqu'un qui nous dit que penser du HEIC. Basma Maklouf, Chabou.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une infinité de formats au niveau de la photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus possible, favoriser, privilégier les formats stables qui sont pas liés à donc à des entreprises pour avoir vraiment cette indépendance.
Oui. Est-ce qu'on peut les nommer ces formats?
Justement, alors ce qui est conseillé, c'est les formats TIFF.
TIFF.
Exactement. Ça c'est le plus conseillé. Sinon JPEG 2000. Parce que il faut juste penser à la question de la compression. Avec l'image numérique, c'est vite des capacités de stockage importantes. Et donc c'est important aussi de voir cet aspect-là. Souvent aussi, on va penser à compresser la photo numérique et de ce fait, on a le risque de perdre donc au niveau de la qualité. Avec TIFF, par exemple, on est à l'abri, donc on perd pas au niveau de la qualité, on perd pas des données ou des métadonnées. JPEG 2000, c'est encore aussi le cas, mais avec d'autres formats, c'est toujours le risque. Typiquement avec RAW, par exemple, c'est une perte presque certaine.
Rapidement, dernière question pour vous, Heidi Estopé. Dans un magasin de photos, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des clients qui arrivent avec un appareil photo numérique en disant « il y a des photos dedans, mais je n'arrive plus à les voir, elles sont coincées quelque part ». Vous faites aussi un peu ce travail finalement d'informatique plus que de photos?
Oui, tout à fait. Alors, il peut arriver qu'une carte mémoire dans un appareil photo soit défectueuse ou bien le client a perdu ou effacé ses photos. Et à ce moment-là, via un logiciel, on peut en tout cas essayer de récupérer une partie des photos. Et ça marche en général assez bien.
Bonne nouvelle. Merci beaucoup Heidi Estopé, conseillère spécialisée en photographie au magasin Photovision à Lausanne, et Basma Maklouf Chabou, professeur responsable de la coordination des cours archivistiques de la filière sciences de l'information à la HEG Genève, responsable d'Archilab. On vous remercie toutes les deux pour toutes les réponses aux questions de notre public dans ce guichet. On vous souhaite une très bonne journée.
Merci.
Bonne journée. Merci à Mathieu Truffert pour la préparation de cette émission et ses interviews au sommet du Montfort, donc pour angoisser les touristes qui prenaient. Oui, c'était rassurant finalement. Tous ces touristes qui prennent des photos sans forcément se demander ce qu'il va en advenir. Merci à nos standardistes du jour, Cassie Guéry, Delphine Sage et Macha Trekousova et Julien Carrera qui étaient à la réalisation ce matin. Demain.